Jacques Méry, IRSTEA, je suis économiste, donc vous vous doutez que votre discours, vous avez presque donné un cours d'économie, en fait, pour dire les choses simplement. Donc, en fait, effectivement, on peut voir la sacrifice comme un retour sur investissement. Et ça me fait penser, par rapport aussi à la première intervention sur la règle de vie, bon, pour un théorie économique, la règle de vie, c'est la maximisation de l'utilité. Donc, je voudrais juste vous poser la question sur qu'est-ce que vous pensez de cette... comment les économistes voient un peu le raisonnement individuel de maximiser son utilité, mais au sens large de ce qu'on appelle l'utilité, bien sûr.
On va prendre une première série de questions, et puis après, vous pourrez répondre. Vous aviez un privilège, utilisez-le.
L'exposé précédent, l'interrogation que j'avais, c'était... on a vu le processus plutôt individuel, ce qui fait qu'on ne change pas. Et l'exemple de l'addiction, en particulier, et du regard de l'autre, peut-être le lien que j'aurais tendance à faire, c'est non pas seulement les valeurs, mais la représentation du monde. Et la représentation de ce qui n'est pas forcément un acte de sacrifice, qui est une action, que l'on fait en cohérence avec sa représentation du monde. Ce qui nous paraît être un sacrifice, ce qui paraît à l'autre être un sacrifice, n'en est plus un pour moi.
Ça, c'est l'idéal.
Alors, c'est pas forcément un idéal, parce que ça va aussi vers le fanatisme.
C'est-à-dire
que celui qui a une représentation du monde fanatique peut s'engager dans un sacrifice, bombe humaine, qui répond à sa représentation du monde et qui est un peu choquant pour nous. Il me semble que l'éclairage de l'individu sur le collectif et sur la représentation du monde qu'on se fait ensemble peut nous aider à avancer vers un chemin de sobriété heureuse, peut-être. Et pour rapport à l'intervention sur l'ADEME, sur le sens de l'institution, sur le sens de l'État, je ne sais pas si il faut forcément, en tant qu'individu, avoir un rôle, enfin le sens de son utilité dans son organisation, ou alors il faut en sortir pour le courage d'en sortir. C'est pas forcément un sacrifice, et ça engendre aussi un regard sur soi qui évolue. Est-ce que le capitalisme est moins une religion que le christianisme, religion dans le sens relier les hommes, j'aurais tendance à dire que c'est pareil et que finalement c'est l'excès qui va plutôt être une difficulté pour la société globalement, l'inquisition, l'hypercapitalisme, ce qui relie les hommes dans l'intérêt individuel, dans l'épanouissement individuel, l'épanouissement collectif, il est plutôt à rechercher. Et quand, en tant que mettons, salarié de la même, je m'interrogerai sur quel est mon rôle, je pense que le rôle, c'est de susciter, en fait. C'est pas forcément d'asséner un discours moralisateur, culpabilisant, mais de dire là où vous êtes, là où je suis, comment on peut avancer ensemble, quoi. Ou est-ce que vous avez des idées, parce que peut-être que on peut avoir une vision et pas forcément avoir les moyens de les mettre en œuvre dans une action, quoi. Et le discours, en fait, qu'on pourrait se poser un peu moralisateur sur le comportement, je me dis il vaut mieux peut-être regarder à l'écoute collective et comment, par exemple, dans une salle ici, on décidait de faire une action concrète et on mettrait en évidence nos capacités individuelles et collectives à donner du sens à une mise en mouvement. Et pas de dire il y a une solution et il y a une culpabilité, parce que finalement, individuellement, on ne peut pas répondre à cette culpabilité. on ne peut y répondre que collectivement.
Merci. Oui. Soyez bref dans vos interventions parce qu'il nous reste peu de temps. Donc.
Moi, j'ai deux petites remarques par rapport à votre intervention pour laquelle je vous remercie. C'est que donc, vous dites que des valeurs comme la liberté, etc., pourraient être motivantes pour se projeter, etc. Mais ça suppose aussi un discernement parce que je vais juste relater les résultats d'une recherche qu'avait fait un sociologue sur l'émergence de l'automobile. Et donc, vendre de l'automobile, c'était vendre de la liberté. Mais en même temps, ça a servissé 6 jours sur 7 les ouvriers de Ford. Donc, chacun vend ses valeurs, entre guillemets, et il peut y avoir des travestissements ou des illusions. Quoi. C'est pas si simple. Et puis, vous parlez des perdants dans les systèmes qui évoluent, de deuil qu'il faut faire, de mort, de choses, etc., comme ça. C'est vrai que dans la transition, la question des perdants, elle est cruciale. Et quand c'est des multinationales qui vendent du glyphosate, c'est pas évident. C'est un peu David et Goliath, quand même. Donc là, les perdants, ils ont un pouvoir colossal. Du coup, pas évident.
Merci.
Alors, c'était juste pour faire une petite remarque par rapport à la première présentation. Du coup, je m'appelle Delphine Labouze, je suis docteure en psychologie sociale et environnementale. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ont fait écho avec des choses. Et je trouvais ça très intéressant de repartir du postulat que l'homme n'est pas rationnel. Et en fait, moi, dans ce que je vois dans les projets d'intervention sur le changement de comportement pour le développement durable, on continue quand même à penser que sensibiliser, informer, ça suffit. Enfin, connaître va faire changer les gens. Et moi, je me suis beaucoup intéressée à tous les facteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on agit ou pas pour protéger l'environnement. Et dire qu'il y a les facteurs individuels, mais qu'il y a aussi les facteurs sociaux, donc les normes sociales, ce que les autres font, ce que les autres pensent, le poids des habitudes, les émotions, les affects, enfin, toutes ces choses-là qui ne sont pas rationnelles. Et au final, la question du modèle rationnel versus expérientiel, ça me renvoie à ce qu'on appelle les théories de l'engagement en psychologie sociale. Comment on fait pour passer de l'intention au comportement, du discours à l'acte, et nous dire qu'au final, on n'est pas engagé par ce qu'on dit, mais par ce qu'on fait. Donc la fameuse question des gens qui parlent beaucoup, mais qui finalement ne font pas grand-chose. En psychologie sociale, on dit qu'on est engagé quand on agit, et c'est comme ça qu'on peut faire changer. Et dire que finalement, le changement n'est pas linéaire, ça, je trouvais ça intéressant aussi. Ça renvoie à un modèle qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle le modèle des stades du changement, où on voit que y a différentes étapes, mais des possibilités de rechute et de revenir en arrière. Et comment on fait pour pérenniser un changement? Parce qu'on se pose la question de comment on amène les gens à changer et comment on fait pour que ce changement soit durable. Donc voilà, c'était plus des réflexions. J'ai trouvé ça vraiment les deux présentations très intéressantes, très enrichissantes, avec des regards différents. Et merci beaucoup.
Je voulais réagir à ce que disait monsieur par rapport aux sacrifices religieux, aux fanatiques, etc. Quelque part, dans ce modèle religieux-là, pas nécessairement fanatique, il y avait généralement cette notion de paradis. On va subir pour aller au paradis plus tard. Donc, quelque part, cette sorte de récompense métaphysique sur laquelle je pense que les gens considèrent comme une fête avérée, comme une croyance qui est une vérité. Maintenant, on a aujourd'hui encore des paradis. Bon, on parle beaucoup de paradis fiscal. Sauf que là, c'est justement... Ceux qui se sacrifient, ce sont les autres. Maintenant, sauf erreur de ma part, je pense que le communisme parlait de créer un paradis sur Terre. Je ne suis pas sûr. Mais quelque part, peut-être que c'est cette notion de paradis qui peut être explorée comme, je ne sais pas, une porte de sortie. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose là.
Merci. Avec la transition, le paradis, c'est maintenant. Donc, Alors, allez-y. On vous écoute peut-être pour répondre aux questions ou aux remarques qui vous ont été faites.
Donc, les différentes remarques nous font aller dans des sens qui peuvent être assez divers. Donc, je vais essayer de le regrouper un petit peu. Il y a la question de la maximisation qui pourrait être une règle de vie, maximisation d'utilité. C'est un problème difficile parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est que l'utilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une notion qui est opératoire en économie, effectivement, parce que c'est quand même quelque chose auquel on est censé se référer pour, sur cette base-là, construire des modèles de comportement d'argent rationnel, la plupart du temps d'ailleurs. Et en même temps, c'est très difficile, d'un point de vue philosophique, attraper cette notion d'utilité. Et alors si on a une acception très restreinte de l'utilité, on peut avoir la version instrumentale, c'est-à-dire c'est ce qui sert à. Donc on suppose que c'est utile parce que ça sert à quelque chose. Alors c'est quoi ce quelque chose? C'est une finalité, une fin, etc. Mais là on est vraiment dans un schéma instrumental de l'utilité. Et si on a une exception plus large, l'utilité ça peut aller jusqu'à recouvrir des notions comme le sens, la beauté, et pas simplement la propriété, de cette manière, la jouissance qu'on tire de la propriété. Donc si ça va dans ce sens-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais peut-être que ce qui serait délicat, ça serait alors de rendre compte en fait, de tout un tas d'autres aspects qui sont de nature plutôt gratuite. Des choses qui, alors je sais bien qu'il n'y a pas grand-chose de gratuit, même le sacrifice n'a pas l'air complètement gratuit, visiblement. Mais quand même, il peut y avoir un plaisir à la gratuité, enfin, en tout cas ce qui est perçu ou vécu comme une forme de gratuité. Et du coup, l'utilité, peut-être aurait du mal à rendre compte de ça. Enfin, c'est ce que j'imagine hein, de l'extérieur, même si on pourrait tout à fait considérer que la maximisation de l'utilité, c'est finalement la maximisation que l'on a du plaisir oblatif, vous voyez, du plaisir à donner de façon gratuite à quelqu'un. Bon, pourquoi pas hein, ça me lance un sens très très large hein, de l'utilité. Alors, juste en deux mots hein, sur un autre point. Plusieurs remarques vont dans le sens, me semble-t-il, du problème de la traduction, hein, mais au sens notamment où on a plusieurs voies hein, pour traduire des principes ou des résolutions dans des actes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par rapport à d'autres questions qui ont été soulevées tout à l'heure, notamment sur ce que peut être la position de l'État, une agence de l'État, comme l'ADEME, qui n'est pas une position simple, hein, parce qu'elle doit à la fois être prescriptive, mais sans vraiment l'être, parce qu'elle ne peut pas non plus être prescriptive au point où elle impose des voies de changement à une population tout entière. Il me semble que on a là deux contraintes importantes du changement, c'est-à-dire à la fois il faut pouvoir donner un cadre relativement clair, une direction collective, mais qui ne peut pas être autoritaire. Et donc il faut pouvoir aussi laisser une latitude aux acteurs pour en fait, interpréter hein, cette direction, ce cap, dans un sens, selon des modalités qui permettent de rendre compte de leur contexte spécifique. Et donc là, c'est tout un travail de traduction, mais qui pourrait rejoindre aussi d'ailleurs des choses qu'on connaît par ailleurs. Mais, y compris dans des doctrines spirituelles assez différentes, hein, alors là pour le coup l'oriental, si vous prenez le yoga par exemple, hein, c'est il y a plein de yoga possibles, hein, plein de voies possibles, mais qui visent un but relativement semblable. Il y a un but commun, semblable, mais plein de manières hein, d'arriver à ce but-là. Hein, vous pouvez prendre la voie de la méditation, vous pouvez prendre la voie de l'exercice corporel, vous pouvez prendre la voie de la circulation des énergies, etc. Je donne cet exemple du yoga pour montrer que ce n'est pas parce que vous avez un but commun que tous les moyens d'arriver à ce but doivent être eux-mêmes uniques. Et du coup, je pense que tout ça nous renvoie à la question du commun, en fait. Alors, on a fait un colloque là, à la Sorbonne en juin dernier sur entre état et marché, la dynamique du commun. Et je trouve que cette notion de commun est intéressante parce que elle se situe à l'interface de l'État et du marché, à l'interface de l'individu et du collectif, et à l'interface de la liberté et de la nécessité de la contrainte. Et donc je pense que le fait d'avoir une multiplication hein, d'associations, alors pas dans le sens judiciaire, hein, juridique du terme uniquement, mais de regroupements d'individus qui forment des communautés de communs, mais qui vont chacune inventer le chemin de changement qu'elles vont suivre, mais de façon volontaire, libre, un peu comme dans les vies en transition, par exemple, hein, à la Hawkins, tout en sachant qu'il y a un objectif d'ensemble, hein, que chacun s'efforce de suivre, ça me paraît être une solution relativement souple et flexible, hein, qui permet à la fois à l'État de jouer son rôle, qui consiste à donner une direction d'ensemble, et aussi de jouer son rôle de partenaire qui laisse une latitude aux acteurs pour s'auto-organiser. voilà, et sur une base libre et volontaire. Voilà une version pour essayer de regrouper plusieurs, plusieurs points qui ont été soulevés.
Est-ce que je pourrais être juste
intéressée? Oui.
Donc moi je suis là un petit peu, je pense, par hasard, ou pas. Et donc je suis artiste, mais avant j'étais 23 ans à la suffisance publique à soigner nos aînés. Et j'ai aussi fait un burn-out et je me suis retrouvée dans mon jardin. Et puis un jour j'ai eu peut-être ce qu'on a commencé à dire, un processus de sublimation, et aujourd'hui je suis ici. Et l'image qui me vient, puisque en fait là on est dans la symbolisation, on va dire, c'est celle du composteur. Donc je pense qu'on est tous là, on est tous soit une feuille, on ne bouge pas trop, enfin voilà, mais on peut quand même envoyer, voilà, on est peut-être un insecte, on est peut-être un mâle, etc. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, et aujourd'hui, dans notre système, dans la nature, c'est comme une énorme, je reprends une idée que j'ai entendue, une énorme toile d'araignée, donc en fait, c'est comme ça. Que c'est très bien, et en fait on a tiré sur les fils. Alors bon, on peut les reconstruire, mais là la toile d'araignée elle tient à peine. En fait, c'est ce qui se passe. Et donc je pense que mon idée, en fait, c'est que il faut peut-être qu'on arrête de symboliser et de passer à l'action. Et donc c'est le titre de votre journée en fait qui m'a fait venir ici. En fait, c'est ça qui m'a porté. Je me suis dit, mais il faut que les gens ils s'engagent. Mais alors, quand on vous dit s'engage, alors hop, on a tout de suite des notions politiques ou des notions d'autres choses, etc. Après, on a des notions individuelles, enfin, peu importe. En fait, oui, ça demande une remise en question. Oui, le changement est un processus qui permet d'eux. En fait, on est tous comme... en fait, il faut regarder les images dans la société. Aujourd'hui, vous avez des fous qui sont sur un fil et qui montrent à tout le monde que... Voilà, on est comme ça, et c'est exactement ce qui se passe. C'est pas des images anodines, hein, celle-ci. On est saturé d'images, mais celle-ci, elle est quand même très très forte. On a plein de capacités au niveau des neurosciences sur lesquelles on travaille. On avance, il y a des choix à faire. Je pense que les femmes aussi ont une place à reprendre. Messieurs, je suis désolée, mais c'est vrai. Et je me sens assez émue de parler. Je suis un petit peu trop bien. Et je pense qu'il faut simplement peut-être poser la question à vous tous et à tous les gens, à quoi vous rêvez? Vous l'avez dit avec... voilà. Et eux, ils ont réussi, puisque en fait, il y a des millions de gens qui vont voir le film. Donc, on est dans l'image, l'image en mouvement, puis on est tous là, comme ça. Maintenant, on est tous dans les petites boîtes avec nos prothèses. Et en fait, la réponse, moi, je trouve qu'elle est un peu dans la nature. Enfin, c'est ce que me rapportent les anciens. Donc, il faut regarder comment fonctionne un composteur. Et c'est encore une autre image qui est, à mon avis, très intelligente par rapport à l'ADEME qui a mis en place quand même des gens. Enfin, moi, je ne sais pas, mais l'endroit où je vis, on montre aux gens à faire des composteurs. Mais ça fait déjà 10 ans, moi, que j'ai mon composteur, donc ça me fait marrer. Au début, ça m'a fait marrer, puis après, je me suis dit, mais quand même, il y a quand même une prise de conscience. Et elle ne passe pas forcément par des chocs, comme ça a pu être le cas pour moi, ou une maladie, ou simplement, de toute façon, tu vas mourir. Donc, il faut faire quelque chose. Voilà. Donc, du coup, c'est pas forcément que ça. Donc, il faut arrêter d'être dans la symbolisation, et il faut passer à l'action, je le redis. Donc l'action, c'est celle, peut-être on va revenir à l'Amazonie. Hein, donc, moi j'y suis allée, hein, vous savez, hein, ils ont des rébans, ils sont dans les hamacs, ils font beaucoup de bébés hamacs, faut relativiser, c'est loin tout ça. Et en Amazonie, pourquoi je parlais de ça? Alors,
peut-être que...
Oui,
parce que cet après-midi, ça sera consacré plus à l'action, justement. Hein. C'est-à-dire
ce matin, c'était
plus justement des approches plus théoriques.
Okay.
Et cet après-midi, on aura des acteurs de terrain qui agissent justement par rapport à la transition. Donc, on abordera l'action cet après-midi.
Dont vous voulez parler, pardon.
D'accord.
Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, donc ça fait un moment qu'elle dit, sans donner de leçons ou quoi que ce soit, hein, c'est juste voilà, un vécu. Vous parliez d'expérientiel, c'est exactement ça que je suis témoin. Ouais.
Merci. Est-ce que vous souhaitiez intervenir par rapport aux différentes interventions?
Alors, j'essaie de souvenir. L'intervention par rapport à la question des représentations. C'est clair qu'on agit avec des représentations, on a tous des représentations. C'est-à-dire, l'homme est dans l'image et dans l'imaginaire. Et effectivement, il y a une autre chose qui s'appelle le discernement. Alors, pour certaines raisons, on peut tomber dans un fanatisme. Et certains ne tombent pas dedans. Il y a des raisons personnelles, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui sont liées à la fragilité de l'individu, ou une fragilité sociale. Il y a plein de raisons. Ça serait trop compliqué de parler de tout ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on a des valeurs qui sont celles que tout le monde puisse vivre ensemble, ça, c'est une représentation. On peut créer des représentations par rapport à ça. À un rêve. Un rêve futur qui n'est pas irréaliste, hein, d'ailleurs, parce qu'on disait effectivement qu'il y a tout un tas d'initiatives, il y a tout un tas de gens qui font des choses. Parce que là, on parle comme si tout est à faire. Oui, tout est à faire, mais c'est vrai qu'il y a déjà plein de personnes qui s'inscrivent dans ce changement-là. Il y a beaucoup d'alternatives. Moi, j'ai entendu parler de, je ne sais pas si vous connaissez, quelque chose qui s'appelle Incroyable Comestible. Bon, voilà, c'est un village qui arrive à se nourrir comme ça. Alors, bien sûr, ça ne sauve pas la planète. Mais ça veut dire que les gens sont déjà là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dedans. Alors la question, effectivement, théoriquement, de la représentation et du fanatisme que ça peut entraîner, que ce soit dans des régimes politiques ou dans la religion et tout ça, je pense qu'elle existera toujours. Il y aura toujours des choses comme ça. C'est pas...